Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce jeudi 31 mars et à la une. Un piéton a été mortellement percuté par un poids lourd à Gap. L'accident s'est produit vers 16h avenue Commandant Dumont. Elle était dans les cartons depuis plus de 10 ans. La nouvelle caserne des pompiers de Sisteron devrait sortir de terre pour la fin de l'année 2024. Un bâtiment qui représente un investissement de plus de 2 millions d'euros. Et ce matin justement, la convention multipartite relative à son financement a été signée. Un épisode de gel annoncé pour la fin de semaine par Météo France. Les arboriculteurs s'y préparent alors qu'il y a un an, d'importantes gelées avaient causé des dégâts considérables. Des patients en fin de vie peuvent faire écrire leur histoire. Depuis décembre 2017, une biographe intervient au Chicas dans l'unité des soins palliatifs, mais des fonds sont recherchés pour permettre à sa plume de faire vivre ses témoignages. En sport, Simon Billy reprend la tête de la Coupe du Monde de ski de vitesse. Le haut alpin a terminé ce jeudi deuxième en Andorre lors de la première manche de cette dernière étape de la saison à Grand Valera. Et pour commencer, donc, un piéton a perdu la vie à Gap après avoir été renversé par un poids lourd. L'accident s'est produit vers 16h avenue Commandant Dumont. 14 pompiers se sont rendus sur place ainsi que 2 ambulances, le SMUR mais aussi un chef de groupe du SDIS et la police. Une enquête doit être ouverte. Le projet d'une nouvelle caserne à Sisteron était dans les cartons depuis plus de 10 ans. Les crédits sont désormais trouvés, il est donc lancé. Les pompiers auront à la fin de l'année 2024 une caserne flambant neuve. Ce matin, la convention multipartite relative à son financement a été signée en présence d'Éliane Bareille, présidente du département des Alpes de Haute-Provence, des 8 maires des communes défendues en premier appel, Beuvron, Entrepierre, Mison, Saint-Geniez, Salignac, Sisteron, Valerne et Vaumeil, et de Jean-Claude Castel, le président du conseil d'administration du SDIS 04. Il rappelle que l'organisation de ce financement est une première sur le territoire basalpin.
Le budget du SDIS, le budget total, c'est 20 millions. Si toutes les années vous prenez déjà 2 millions pour faire une caserne, c'est impossible, quoi. Impossible. Donc c'est pour ça qu'on s'était retrouvé à un taux d'endettement qui était tellement élevé qu'il est un peu montré du doigt. Parce que dans les autres départements, ça se passait pas comme ça. Et là, il faut tirer le chapeau à Monsieur Spagnou avec sa casquette de président des maires, qui a remonté ses manches et qui est allé chercher les maires avec mon prédécesseur, Monsieur Pourcin, pour leur dire bon les gars, maintenant. Maintenant, il faut qu'on mette un peu la main à la poche, sinon on n'aura plus de pompiers. Aujourd'hui, la convention qu'on vient de signer, là, elle est entre le département, le SDIS, et la mairie de Sisteron. Mais les autres qui vont être faites derrière, le sont entre les maires, le SDIS, le département et l'État, parce que par le biais de la DETR, qui est la dotation d'équipement des territoires ruraux, qui est donnée par l'État aux communes, l'État va participer à hauteur de 30%.
Cette caserne de plus de 1200 mètres carrés sera construite en ossature bois avec une toiture végétalisée. Le coût prévisionnel du bâtiment s'élève à 2 millions d'euros. Mais la commune de Sisteron a dû aussi acheter le terrain d'une valeur de 400 000 euros. Elle met également la main à la poche pour tous les aménagements annexes comme les égouts, l'eau, l'élargissement des routes, soit 1 million d'euros. Pour Daniel Spagnou, l'édile de la ville, il s'agit d'un investissement important mais nécessaire pour faciliter le travail de la cinquantaine de pompiers.
La nôtre est déjà trop petite et pourtant c'est quand je suis arrivé à la mairie que j'ai construit la caserne actuelle. Et vous voyez, il y a 30 ans, et il faut déjà en faire une nouvelle parce qu'elle est maintenant mal placée et dans le centre-ville. Il y a souvent des embouteillages, les pompiers ont du mal justement à traverser la ville, tandis que là ils seront à l'extérieur, ils pourront prendre l'autoroute pour aller plus vite. Donc je crois que l'emplacement est idéal.
Outre Sisteron, des travaux vont aussi être lancés cette année pour les casernes de Riez, Saint-André-les-Alpes et Castellane. Dans l'actualité également, les arboriculteurs se préparent à un épisode de gel. Il est annoncé par Météo France pour cette fin de semaine. Il y a près d'un an, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence avaient été touchées par d'importantes gelées. C'était les 6 et 7 avril 2021. Elles avaient causé des dégâts considérables, impactant les récoltes à venir, mais aussi celles des 2 prochaines années. Alors ces annonces de Météo France pour ces prochains jours inquiètent forcément la population. profession, Christophe Lourenço.
Dans un département où l'arboriculture représente 40% de l'économie agricole locale et 10% de la production nationale, les producteurs ou alpins ne prennent donc pas à la légère le retour de ce gel. En effet, selon Romain Valiante, météorologiste et nivologue à l'antenne Météo France de Briançon, les températures étaient de saison ce mercredi et ce jeudi, avant qu'une baisse significative du mercure ce vendredi généralise ces gelées de samedi à mardi prochain.
On aura probablement des températures négatives entre moins 6 et moins 2 degrés, voire localement du moins 7 à moins 9 degrés dans les vallées les plus froides, notamment de l'est des Hautes-Alpes et en Ubaye. Donc ce pic de froid sera pour la journée de lundi. Et au niveau des maximales, on ne dépassera pas 4 à 10 degrés dans les vallées pour le week-end. Donc c'est des températures qui sont souvent 5 à 7 degrés sous les normales.
Les températures devraient remonter à partir de mercredi prochain et un nouvel épisode de gel n'est pas pour l'instant en vue avant cette amélioration du climat. Les arboriculteurs se préparent donc à vivre un week-end usant pour protéger au mieux leurs vergers. Au contraire de l'année dernière, la végétation est cependant moins en avance, donc moins susceptible aux dégâts. Ceci étant dit, les aléas climatiques sont malheureusement connus pour les mauvaises nouvelles qu'ils apportent. Édouard Pierre, président des jeunes agriculteurs des Hautes-Alpes.
La principale protection, on va dire, contre le gel, c'est l'irrigation. Hein. Et c'est vrai que, après un hiver, il faut remettre tout en eau. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Il faut préparer les asperceurs. Voilà, c'est la principale solution mise en place. Après, il y en a d'autres, hein, comme des éoliennes qui brassent de l'air pour plaquer un peu l'air chaud au sol pour éviter que ça gèle. Voilà, différentes techniques sont utilisées, mais principalement chez nous, c'est l'irrigation préventive.
Si besoin, la solidarité sera bien entendu présente entre collègues, affirme le syndicaliste agricole. La solidarité de l'État a également été au rendez-vous l'année dernière avec un fonds exceptionnel d'1 milliard d'euros débloqué pour toutes les victimes de cet épisode de gel qui a été considéré comme la pire catastrophe du XXIe siècle par le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Pour anticiper de tels désagréments à l'avenir, le législateur a depuis pris le dossier en main avec une nouvelle assurance récolte, explique le député des Alpes-de-Haute-Provence, Christophe Castaner.
Le président de la République est venu dans nos Alpes-de-Haute-Provence à Corbière annoncer un nouveau régime de précaution et d'assurance de nos producteurs et de nos paysans. Et c'est un régime que nous avons construit avec la profession agricole. Ce régime devait faire l'objet d'une loi. La loi a été votée, adoptée, mais n'entrera en vigueur qu'en 2022. Je vais vous répondre très clairement. S'il y avait à nouveau un épisode, il y aurait de nouveau la solidarité nationale. Et dès l'année prochaine, nous serons dans ce régime de solidarité nationale sur lequel l'État mobilise 600 millions d'euros par an pour accompagner nos exploitants.
Ce nouveau dispositif prévoit ainsi une indemnisation plus rapide pour tous les agriculteurs, qu'ils soient assurés ou pas. Ils pourront également recevoir des subventions pour souscrire à une assurance privée à tarif régulé.
Merci Christophe. Les collectivités locales ont aussi soutenu les arboriculteurs à hauteur de 300 000 euros pour le département des Hautes-Alpes, 200 000 euros pour son homologue basalpin et finalement 3 millions de la région PACA. C'est le dossier de la rédaction. Des patients en fin de vie peuvent faire écrire leur histoire grâce à une biographe. Depuis décembre 2017, ce support de soins est proposé aux personnes gravement malades de l'unité de soins palliatifs du CHICAS de Gap, une biographe qui est rémunérée par l'association Biographie Hospitalière Grand Sud-Est. Ce mercredi, le PDG du groupe Lovige, avec son fonds de dotation MGL, a fait un don de 2000 euros à cette dernière. L'occasion de mettre en lumière la biographie hospitalière, Cyrielle Cavamichard.
Entre 280 et 300 personnes sont chaque année accueillies au sein de l'unité de soins palliatifs à Gap, un lieu de vie, tient à souligner Isabelle Broche, chef de service.
On est là pour trouver des solutions avec eux, à leur rythme, pour pouvoir après qu'ils puissent retourner à leur domicile ou dans leur lieu de vie, de leur choix. Notre biographe, elle leur donne du sens au temps qui reste pour ces patients. Ces patients, oui, ils sont gravement malades, mais en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont décéder. Peut-être ce sera plusieurs mois ou plusieurs années après. Donc effectivement, ils viennent ici pour un problème aigu qui est très grave, mais bien souvent, on arrive à gérer. Donc ça leur permet de se retrouver en tant que personne et pas en tant que malade auprès de notre biographe.
Depuis décembre 2017, Nathalie Matisse de Lobel intervient en collaboration avec les équipes au sein de l'USP en tant que biographe hospitalier. On en compte seulement 18 sur tout le territoire national. Grâce à sa plume, les patients peuvent coucher sur papier leur histoire pour pouvoir ensuite la transmettre à leurs proches.
Je vais me présenter dans la chambre. Parfois, les personnes ne sont pas tentées tout de suite. Et puis finalement, on démarre et puis elles trouvent ça formidable et puis on continue. Parfois, des personnes auxquelles les personnels soignants ne pensaient pas du tout et qui, en découvrant cette activité, se disent « mais c'est extraordinaire, je vais pouvoir laisser quelque chose à ma famille. Oui, allons-y ».
Des entretiens qui se font dans la confidentialité absolue et qui, selon Nathalie Matisse de Lobel, permettent aux patients de redevenir acteurs de leur vie.
Il faut savoir entendre, recevoir la parole de la personne sans jugement. Il faut de l'empathie. J'ai vraiment l'impression de faire un métier qui a du sens. Et j'étais très touchée par certaines personnes. Une personne qui m'a dit au bout d'un moment avec son accent un peu ch'ti, maintenant je peux partir, je savais pas, mais maintenant c'est chouette, maintenant que je t'ai parlé, je peux m'en aller.
L'ouvrage est ensuite personnalisé grâce à l'artisan relieur Marlène Bevilacqua, une histoire qui a touché Joël Lovige, PDG du groupe du même nom. Basé dans le Var et le Vaucluse, le groupe rayonne dans le domaine de l'œnologie. À travers son fonds de dotation MGL, il a fait un don de 2000 euros à l'association Biographie Hospitalière Grand Sud-Est.
N'importe quelle entreprise peut faire ce que je fais. Depuis quelques années, mes entreprises sont rémunératrices, donc je ne me pose même pas de questions, je le fais. Et puis voilà. Et j'oublierai les ratios de rentabilité, de profitabilité qui égrènent mon quotidien. Par contre, je n'oublierai pas ma présence aujourd'hui à l'hôpital de Gap, l'effort pour la biographie hospitalière.
D'autres dons sont espérés pour continuer à faire vivre à travers ces livres les témoignages de ces patients.
Merci Cyril, et vous pouvez faire un don ou adhérer à l'association Biographie Hospitalière Grand Sud-Est. Toutes les coordonnées sont à retrouver sur notre site internet alpevin.com. Volet culture avec le retour du festival du film de montagne Regard d'altitude dans la vallée de l'Ubaye. Après deux éditions annulées du fait de la Covid-19, il s'installe dans la station du Sauze jusqu'au 2 avril. 17 films seront proposés pour cette 8e édition. Le programme complet est à retrouver sur alpe1.com. Avis aux amateurs d'œnologie et de gastronomie, l'association Les Épicuriens de Serre-Chevalier propose ce week-end sa 3e édition du Salon des Vins et Saveurs à la salle du Serre d'Aigle de Chantemerle. Une trentaine d'exposants, vignerons et métiers de la bouche de toute la France fera le déplacement pour l'occasion. Ils proposeront des dégustations. Ce samedi, le rendez-vous est donné de 10h à 20h, de 10h à 18h pour ce dimanche. Et les amateurs de bonnes bouteilles qui pourront également noter dans leur agenda ce rendez-vous les 22 et 23 avril avec le premier festival vin au sommet. Un événement au hangar zéro de Briançon qui réunira 20 vignerons, brasseurs et distilleurs, majoritairement en bio.
Alpes Sport. Alpes Sport.
Dans une lutte à trois avec Bastien Montès et Simone Origone pour le globe de cristal de la Coupe du Monde de ski de vitesse, le haut alpin Simon Billy ressort ce jeudi comme le grand gagnant de la première manche de cette dernière étape de la saison à Grand Valira en Andorre. Même si la victoire est en fait revenue à Yvon Origone, Simon Billy a su s'intercaler entre les deux frères sur le podium. Dans le même temps, son compatriote et rival Bastien Montès a pris une décevante 7e place. Cette 2e position permet au Var 5 de reprendre la tête du classement général avec respectivement 14 et 18 points d'avance sur Simone Origone et Bastien Montès. Nouveau round à 3 demain avant le dénouement final, ce sera ce samedi lors de la dernière course de la saison. Et puis le dévoluard Cyprien Sarrazin a décroché aujourd'hui la 3e place de la descente à Oron dans les Alpes-Maritimes pour les championnats de France derrière Maxence Musaton et Mathieu Baillet. Une descente qui a bien convenu aux skieurs alpins. Ils réalisent un beau tir groupé au pied du podium avec Nils Alphand et Nils Allègre, 4e et 5e.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.